Boa tarde ou bonsoir à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans l'émission hebdomadaire Rencontre lusophone proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9. Une émission accessible à tous les samedis de 18h à 19h, puisque nous avons pris le parti de vous parler en français de notre autre culture, la culture lusophone. Alors vous savez déjà que cinq voix se croisent en alternance ou quelquefois ensemble à cette heure sur cette antenne, celle de Christian, de Manu, d'Angèle, de Jean-François et de moi-même, Hélène. Alors ce soir, nous avons mis tout le monde en RTT et je me retrouve avec le plus grand plaisir, en tête-à-tête avec le grand Jeff. Bonsoir Jeff.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Tout va bien ?
Ouais, très bien. Tout au bain.
Tout au bain. Alors, ce soir, on n'oublie évidemment pas nos collègues, on les embrasse tous les trois, mais avec quand même une petite pensée toute particulière pour la seconde fille de cette émission, Angèle, parce qu'hier, c'était la journée internationale des femmes. Et j'en profite pour embrasser toutes les femmes qui nous écouteront ce soir, ainsi que celles qui ne nous écouteront pas d'ailleurs. Et depuis que je suis petite fille, cette commémoration existe. Au début, je pensais que c'était un peu comme un deuxième jour du fête des mères. Et puis, lorsque j'ai été en âge de comprendre le sens de cette journée, j'ai espéré qu'un jour, on n'ait plus besoin de la commémorer. Malheureusement, les choses n'ont pas trop changé encore, et ce n'est pourtant pas faux d'essayer, parce qu'un siècle de lutte n'a quasiment rien fait en termes d'égalité des deux sexes. Enfin, si quand même, n'exagérons pas. On a obtenu le droit de vote, le droit d'avorter, on a réussi à obtenir de meilleures conditions de travail, mais en termes de mentalité, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors ce soir, plus que jamais, je me sens féministe, et c'est à toutes les femmes que je veux rendre un fervent hommage.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Hier, nous étions le 8 mars et c'était la Journée internationale de la femme. Et oui, nous sommes aussi en 2019 et nous les femmes, nous avons encore besoin d'une journée dite du droit des femmes pour se faire entendre. Alors mon billet de ce soir sera un billet engagé pour le féminisme. Et je le dis ici haut et fort pour toutes les femmes qui disent qu'elles s'en foutent et qu'elles ne sont pas féministes, le féminisme n'est pas un euphémisme, c'est une nécessité. S'il faut prendre au moins une journée dans l'année pour le souligner, plus que d'habitude, eh bien cette journée a sa raison d'être, ne serait-ce que pour dénoncer ce qui ne fonctionne toujours pas. Et en tant que femme, c'est un devoir de le faire. D'ailleurs, peut-on se permettre dans notre société essentiellement faite pour et par des hommes de ne pas être féministe? Eh bien je ne pense pas. Et voici pourquoi. Tout d'abord, parce que les femmes sont toujours moins nombreuses dans les sphères décisionnaires. Parce qu'à poste équivalent, je gagne 10% de moins que mon collègue homme. Parce que la presse féminine continue de m'expliquer comment bien manger, bien maigrir, bien vieillir, bien m'habiller et bien me maquiller pour être acceptable aux yeux de la société. Parce que la femme parfaite est celle qui fait passer le bien-être de toute sa famille avant le sien. Celle qui sera une bonne épouse et en même temps une femme sexy élégante, et toujours avec le sourire évidemment. Parce que j'ai une fille et que j'ai trop souvent flippé lorsque je la savais seule dans la rue le soir. Parce que certains journalistes continuent de parler de crimes passionnels, de drames de séparation ou de drames familiales pour parler des meurtres commis envers les femmes. Et que je ne vois là aucune passion, bien au contraire. Dans tous ces crimes, je ne vois que de la violence, de la terreur et de la souffrance. Parce que toujours à propos des violences faites aux femmes, j'entends trop souvent dire « Elle n'aurait pas un peu cherché quand même, elle n'avait qu'à pas se mettre en jupe. Elle n'avait qu'à pas faire son jogging seule dans les bois. Et puis elle n'avait qu'à pas prendre son train aussi tard dans la nuit. Elle n'avait qu'à pas se garer dans ce parking souterrain. C'est vrai au moins ce qu'elle raconte ? Parce que la femme qui parle, on ne l'entend pas toujours. Et que lorsqu'elle ouvre un peu fort, on dira qu'elle est hystérique. Parce qu'être féministe, ça veut dire être vigilante, car le combat est bien loin d'être terminé. Et on sait malheureusement que les violences subies par les femmes constituent la manifestation la plus aiguë de l'inégalité homme-femme. En France, une politique spécifique de lutte contre les violences faites aux femmes s'est particulièrement développée dans les années 2000. avec très récemment un renforcement de la répression dans un contexte de forte mobilisation envers, contre les violences sexistes et sexuelles facilitées par les réseaux sociaux via les hashtags MeToo et Balance ton porc. Au Portugal, ce n'est pas mieux car là-bas, l'égalité homme-femme est un terrain miné. D'ailleurs, un des sujets qui en ce moment secoue les médias portugais est une affaire de violence commise par un homme sur sa femme dans le cadre d'un adultère. Une affaire jugée il y a un peu plus d'un an, mais qui ressurgit en ce moment dans un contexte de règlement de compte. Car le juge qui a rendu le verdict dans cette affaire est depuis quelques mois la cible d'humoristes et de certains journalistes. Et pourquoi ? Eh bien parce que le verdict rendu a été tout simplement indigne et révoltant. L'affaire était la suivante. Le tribunal de Porto devait statuer sur les violences commises par un homme sur sa femme après avoir découvert qu'elle l'avait trompé. Eh bien figurez-vous que ce tribunal a trouvé des circonstances atténuantes aux actes du mari trompé, en affirmant tout simplement que l'adultère commis par une femme est une conduite que la société condamne et condamne fortement. Ah, grande justice portugaise qui estime être en mesure de comprendre la violence de l'homme, victime de cette trahison après avoir été vexé et humilié par sa femme. Une justice qui, pour juger cette affaire, s'est appuyée sur une loi portugaise de 1876. Oui, vous l'avez bien entendu, 1876. Une loi qui prévoit des peines légères contre les maris coupables du meurtre de leur femme infidèle. Rien que de lire ça, ça me fait mal au ventre. Cette loi de 1876 dit également que dans la Bible, la femme adultère doit être punie par la peine de mort. Rien que ça. Le tribunal de Porto, deuxième ville du Portugal quand même, a donc accordé des circonstances atténuantes à l'accusé, le condamnant à 15 mois de prison avec sursis, s'il vous plaît, et à une amende de 1750 euros, alors que le ministère public réclamait une peine de 3 ans et 6 mois ferme. Un jugement qui, fort heureusement, a suscité une vive émotion au Portugal et une condamnation du verdict de la part des mouvements féministes portugais qui se sont dit révoltés par une telle légitimation de la violence et qui ont ajouté en substance que évoquer la Bible au cours d'un jugement constitue une atteinte à l'état de droit dans lequel nous vivons. Non mais...
As palavras poupo no vocabulário. É que para o meu silêncio ainda não há um dicionário. E eu não falo sem pensar e não quero pensar demais. Dispenso interpretações emocionais. Como todas as mulheres quero sentir que sou diferente. Sou o clichê da vida toda pela frente. Carente que beco um domingo persistente. Em que não sei porquê a gente tem o olhar ausente. Sou insegura, ponho a lupa nos defeitos. Tenho a fúria do espelho, dúvidas no peito. Às vezes não me valorizo, não grito quando é preciso. Não tenho juízo e vivo em função do outro indivíduo. Sou imperfeita, mas esse é o nosso carisma. Se cisma e não aceita, não consegue ver um cisne. Beleza não se finge, aquilo que tu emanas, mana. Como uma esfinge, fica sólida uma deusa humana. Quando fraquejares vais repetir num sussurro aquilo que eu canto para sorrir num dia escuro. Aquilo que eu canto para sorrir num dia escuro. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema. Eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema. Cinema, somos o fruto da cultura que nos tolha, que nos escraviza pela expectativa que escolhe. Impor em nossos corpos tortos para caber no molde. Impor em nossos sonhos mortos para servir a prole. Comportamentos a menos que sejas louca. Com regate e em privado não te exponhas como a outra. Abre menos essa boca, poupa o teu questionamento. Rosto e corpo no ponto e com pouco pensamento. Tento fazer diferente, ser diferente dessa norma militantemente. Ser exemplo, contradizendo-o sempre. Contradições, nascem contradições opressivas. Como lições para sermos fracas e reprimidas. Sem autoestima, postas de lado como um talher. Não foi para isso que nasci uma mulher. Não vou cumprir com a puta da expectativa. Não é para ela que orienta a minha vida. Não vou cumprir com a puta da expectativa. Não é para ela que orienta a minha vida. E
fraquejando, vou repetir num sussurro aquilo que eu canto para sorrir num dia escuro. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema, eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema, eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Vem colorir o cinzento. E se querem que o embrulho tapa a dor que vai por dentro, eu renuncio ao desespero. Eu recuso o que não quero. Não alimento o degredo que deriva do apego. E peço ao universo que me deu o que mereço. Sei que recebo o que ofereço de regresso. Sempre em dobro, não me contento com pouco. Não cobiço o que é do outro. Eu acredito no meu esforço e ergo sempre o meu pescoço. Posso perder mais vezes, não vendo a rosa dos ventos, mas tento deixar migalhas para saber voltar a tempo. Posso perder mais vezes, não vendo a rosa dos ventos, mas tento deixar migalhas para saber voltar a tempo. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema, eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema, eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema, eu sou o poema, eu sou o poema.
Pour illustrer ma petite chronique de ce soir qui porte sur le féminisme, j'ai choisi la rappeuse portugaise Capicua parce que dans ses chansons, elle véhicule de belles idées féministes fortement influencées par des poètes portugais et en particulier par la poésie de Sophie Melbrenner. Et avant de débuter la chronique culturelle de ce soir, je voudrais juste vous dire que l'émission va faire honneur aux femmes puisque ce soir, nous n'écouterons que de belles voix féminines.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Le mythe de la princesse et du prince charmant alimente depuis très longtemps les relations hommes-femmes. Dans les contes de fées, la princesse est plutôt passive. Elle doit attendre d'être sauvée par le beau prince qui va la sauver en affrontant des dangers. On remarque par contre que dans les nouveaux dessins animés, les princesses se sauvent de plus en plus toutes seules. Une nouvelle génération de femmes princesses est née. Des princesses qui s'affirment de plus en plus et qui osent revendiquer. Voilà bien des idées et des principes qu'on pourrait appliquer à la femme d'aujourd'hui en général. Hier, nous étions le 8 mars, journée internationale de la femme. Et Rencontre Lusophone se devait évidemment de marquer le coup en rendant un fervent hommage aux femmes. Cette commémoration du 8 mars remonte à 1977, alors que les femmes cherchaient à s'émanciper et que des luttes féministes prenaient de plus en plus d'importance dans de nombreux pays. L'ONU a alors décidé que le 8 mars serait la journée internationale des droits des femmes. Et les droits à conquérir et à défendre étaient et sont encore très nombreux. Droits de vote encore dans quelques pays, égalité des salaires, accès à l'éducation, droit à l'avortement, à la contraception, lutte contre les violences sexuelles. Pourtant, nombreux sont les pays qui ont inscrit la loi égalité hommes-femmes dans leur constitution. Mais force est de constater que des textes à la réalité, il y a un gouffre énorme. Alors oui, la société fait très bien illusion. On voit que les femmes travaillent, qu'elles réussissent à faire des carrières et que globalement, pour elles, ça va. Mais ne nous y trompons pas. Les mentalités sont dures à faire évoluer et la société n'est pas prête d'accorder l'égalité aux femmes. Quels que soient les domaines vers lesquels on se regarde, les différences de traitement persistent. Vie personnelle, éducation, vie citoyenne, certaines femmes cumulent même des discriminations par leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou la présence d'un handicap. Et au Portugal, au fait, qu'en est-il? Quelle est la place de la femme dans la société? Peut-on parler d'une égalité homme-femme? Eh bien, nous verrons tout ça dans un instant, après une première pause musicale. Et ce soir, comme l'honneur est aux femmes, nous allons vous faire découvrir de belles voix féminines portugaises. Et on commencera donc par la belle Amy Curl, que l'on écoute souvent dans cette émission, mais je trouve qu'elle a un registre qui va très bien avec le thème de ce soir. Et aux délices des délices, elle nous interprète un thème de notre grand Zeca Afonso, Maio Maduro Maio.
Thank you. adoro maio quem te pintou. Quem te quebrou em canto nunca te amou. Raiava o sol. Maio de amor, era o dia de cantar. E uma fala andava longe a varar.
De vous joindre à nous, sachez que ce soir, Rencontre Lusophone rend hommage aux femmes. Alors juste avant la pause, je vous disais que le chemin à parcourir pour une égalité homme-femme est très long et qu'il y a encore beaucoup à faire. Au Portugal, par exemple, la vie de la femme n'a pas toujours été facile. Mais remontons un peu dans l'histoire du féminisme pour y voir un peu plus clair. Au Portugal, la première pierre du féminisme remonte au 17 juin 1897, avec la création de la Federação Socialista do Sexo Feminino, que je n'ai même pas besoin de traduire tellement c'est évident. Adelaide Cabet, avec l'aide d'autres activistes, fonde en 1908 la Ligue Républicaine des Femmes Portugaises. Le premier congrès du mouvement féministe portugais se tiendra en 1924 avec la présence de femmes importantes dans la lutte pour la condition féminine au Portugal, telles qu'Adelaide Cabalet, Maria Veleda et Helena Guimarães. Plus proche de nous, en publiant en 1971 un des textes les plus novateurs du XXe siècle, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno et Maria Velho da Costa resteront connues dans l'histoire comme étant les Três Marias do século XX, les trois Marias du XXe siècle. Ces trois femmes étaient écrivaines et se sont consacrées à la cause féministe en tant que membres du mouvement féministe du Portugal. Et c'est entre 1971 et 1972 que ces trois auteurs ont lancé l'ouvrage Novas Cartas Portuguesas, qui révélait au monde l'existence d'une discrimination à l'égard des femmes au Portugal. Une forte répression liée d'une part à la ligne dictatoriale de l'ancien régime de Salazar et d'autre part au pouvoir de l'Église catholique qui exerçait des pressions sur le comportement de la posture de la femme en tant que pilier essentiel de la famille. Et limitant ainsi, évidemment, à la femme ses obligations de mariage et de maternité. Belle perspective. Allez, on se refait une petite pause musicale avant de continuer et de vous parler de la condition de la femme portugaise pendant la dictature de Salazar. Cette fois-ci, je vous propose une chanson pop des années 80. Je vous propose « Ok Kao », interprétée par quatre belles femmes, Laura Diogo, Lena Coelho, Fátima Padinha et Teresa Miguel, qui formaient le quatuor « As Doces ». Pendant la période de l'État nouveau, période pendant laquelle a gouverné le dictateur Antonio Salazar, la femme était essentiellement réduite à son rôle de mère et d'épouse. Les nouvelles lettres portugaises, sorte de credo rédigé par les trois femmes écrivains, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno et Maria Velha da Costa, révélaient et dénonçaient les injustices commises pendant la guerre coloniale, les réfugiés et les exilés. Cet ouvrage a d'ailleurs valu à ces trois auteurs une procédure judiciaire mise en place par le régime salazariste. Le contenu érotique supposé de l'œuvre aurait heurté les oreilles chastes du dictateur. Un long procès a donc été mené contre les trois féministes. Mais heureusement, la révolution des œillets lui a coupé l'herbe sous le pied et la procédure judiciaire n'a pas été menée à son terme. Et toujours dans la continuité du mouvement féministe amorcé par Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno et Maria Velha da Costa, la toute première manifestation féministe au Portugal a eu lieu au Parc Eduardo VII, juste après la révolution de 1974 à Lisbonne. La symbolique était forte puisque les manifestantes ont brûlé leur soutien-gorge devant les insultes de plus de 3000 hommes présents. Belle révolution avec une belle symbolique, je trouve. La révolution signifie le changement et les soutiens-gorge en feu peuvent être simplement une allégorie, une façon de montrer comment on peut brûler l'oppression, l'insécurité, la peur et le manque de courage en montrant que nous pouvons toujours faire mieux que nous le pensons. Que nous soyons des femmes ou des hommes de bonne volonté d'ailleurs. Il est évident que les hommes ne sont pas les seuls responsables de la condition de la femme, puisqu'aujourd'hui encore, si des différences entre les sexes persistent, c'est également dû à l'inactivité et à la peur des femmes, qui sont elles-mêmes les premières à ne pas croire en leur potentiel.
Es camino pasa tu mente. Que mostrabes camino luz. Que mostrabes camino luz. Es camino pasa tu mente. Saudades. Saudades. Saudades de la tierra sin entrar. Saudades, 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 minha terra sanicar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudades, 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 minha terra sem inclar. Saudades, saudades, saudades,
κοιτάς τέρι που κοιτώ στα μάτια σου να κοιταχτώ που έχω χρόνια να τα φιλήσω το βλέμμα σου το καστανό το δάκρυ σου το γαλανό πάλι να πιω και να μεθύσω σοδά. Σοδά, σοδά, που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, 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 μοναχή μου κοιμάμαι. Μη μ' αγαπάς για μια ζωή, ξέρω κανένας δεν μπορεί. Εύκολα φως μου να το κάνει. Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Σοδά, σοδά, σοδά που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, 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 μοναχή μου κοιμάμαι. Thank you.
sonar, sonar, diz minha terra saninclão. Sonar, 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 diz minha terra saninclão. Sonar, sonar.
Nous venons d'écouter Césariaev au duo avec la chanteuse grecque Eleftheria Atvanatinaki dans la chanson Saudade, connue dans le monde entier. Mais revenons à la condition de la femme portugaise pendant la dictature. Et je vous parlais tout à l'heure d'une des toutes premières révolutions féministes ayant eu lieu à Lisbonne, juste après la révolution des œillets, et qui a vu des femmes brûler leur soutien-gorge en signe de protestation sur leurs conditions de femmes réduites au mariage et à la maternité. Que dire maintenant en ce qui concerne les droits civiques des femmes au Portugal? Eh bien, il a fallu attendre l'ère salazariste dans les années 30 pour que les femmes puissent s'exprimer par le vote. Mais attention, le vote était exclusivement autorisé aux femmes ayant fait des études supérieures ou des études secondaires complètes, s'il vous plaît. On ne sait jamais. Il faut vraiment attendre la révolution des œillets pour que toutes les femmes portugaises puissent enfin voter, leur premier vote ayant eu lieu en 1976. L'un des derniers jalons du féminisme au Portugal restera l'année 2014 avec l'implication de dizaines de figures publiques dans cette cause. Et il ne faut évidemment pas oublier la grave crise économique que le Portugal a traversée à partir de 2009. Parce que certes, les Portugais ont subi des mesures d'austérité draconiennes, mais au premier rang des plus touchés par la crise, il y a eu les enfants, les personnes âgées et les femmes. Bon point toutefois pour le Portugal, où la disparité salariale globale entre hommes et femmes était au Portugal de 26,5%, tandis que celle de l'Union européenne est de 39,8%. Maintenant, en ce qui concerne la supervision internationale des femmes portugaises, peut-on affirmer qu'il y a aujourd'hui dans le pays des femmes jouissant d'une renommée internationale et populaire, telles que par exemple Durão Barroso, qui a été président de la Commission européenne, ou António Guterres, actuel secrétaire général de l'ONU? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. À part quelques artistes de fado connus d'un public plus ou moins large, tels que Marisa, Ana Moura, Kate Guerreiro ou Misia. Maintenant, au niveau social, quelle place occupe la femme portugaise? Et le Portugal reste-t-il un pays de machos? Ben, un peu quand même, surtout lorsque l'on voit certains chiffres qui donnent à réfléchir. Car il semblerait que les hommes portugais passeraient 96 minutes par jour à cuisiner, nettoyer et s'occuper des enfants, la moyenne de l'OCDE étant de 141 minutes. Les femmes portugaises occuperaient quant à elles 328 minutes en moyenne par jour dans les travaux domestiques, soit presque 4 fois plus que les hommes. On peut donc dire que l'inégalité entre hommes et la femme est encore bien ancrée au Portugal, même si la révolution des œillets a contribué à l'amélioration de la situation de la femme portugaise. Et pourtant, la loi 13 de la Constitution portugaise prône déjà l'égalité des deux sexes.
Viver vida sem ter esperança, viver morte sem morrer, ver nos olhos de criança a vontade de crescer, ver nos olhos de criança a vontade de crescer. Posso entardecer sem ter visto uma criança, não só de parto nascer, sem ter visto uma criança, não só de parto nascer.
y a des voix qui portent en elles la trace des moments de notre vie. Et la voix de Jules Pont, j'en fais partie. J'en ai encore la chair de poule. Elle nous a chanté « Filho Azul ». Mais revenons à notre femme portugaise. Et oui, et pour vous dire qu'au Portugal, la population féminine est en plus grand nombre dans l'univers académique que les hommes. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'elles seraient plus nombreuses à occuper des postes de chefs d'entreprise ? Eh ben non. Parce que selon une étude récente, seulement 5% des entreprises seraient gérées par des femmes. Se tournerait-elle alors vers des carrières politiques ? Eh ben non, toujours pas. Parce que dans le gouvernement actuel, sur 17 ministres, seules 4 sont des femmes. Mais attention, une femme quand même a été présidente de l'Assemblée nationale portugaise. Il s'agit de Maria Assunção Andrade Esteves, qui a été nommée à ce poste entre 2011 et 2015. Mais celle qui a occupé le poste le plus important au niveau de la gouvernance de l'État portugais a été indubitablement Maria de Lourdes Pinto Silgo, nommée Premier ministre de 1979 à 1980. Une autre femme, Leonor Blaise, a également occupé une place de prestige dans l'échiquier politique en étant vice-présidente de l'Assemblée de la République entre 2002 et 2005. Elle a même laissé son empreinte au ministère de la Santé qu'elle a dirigé de 1985 à 1990. Une autre femme, Manuela Freire Leite, a été présidente du Parti Socialiste de 2008 à 2010. Par la suite, elle a également occupé le poste de ministre de l'Éducation et de ministre des Finances. Un parcours tout à fait atypique a été celui de Zita Seabra, qui a parcouru quasiment tout l'échiquier politique portugais. Elle a adhéré au Parti communiste portugais en 1966. Elle a été députée, elle a œuvré pour la légalisation de l'avortement et fondé le Parti écologiste. D'autres femmes portugaises ont bien évidemment occupé des postes clés, tels que Joana Marques Vidal, nommée procureure générale de la République, Paula Teixeira Cruz, ministre de la Justice, ou Helena Fraga, qui a été bâtonnier de l'Ordre des avocats. En ce qui concerne maintenant des sphères autres que des postes à responsabilité, on peut noter une certaine progression en termes de participation des femmes portugaises dans des organisations de pensée et de propositions telles que la franc-maçonnerie. Au niveau mondial, cette organisation est majoritairement masculine. Toutefois, la féminisation de celle-ci a pris au Portugal un retard encore plus considérable qu'ailleurs. Et il ne faut pas oublier toutes ces belles ambassadrices qui font parler du Portugal bien au-delà des frontières, comme la pianiste Maria João Pires, les artistes plastiques Paula Rego, Joana Vasconcelos et la fadiste Marisa. Mais je vous parlerai de tout ça tout à l'heure.
Preso nos rochedos, mas... de vidro quebra em mim. Fecho os olhos para os meus medos quando o fado canta o fim. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz.
On vient d'écouter deux autres belles voix féminines, Cristina Aguas et Cuca Roseta, qui ont interprété en duo la chanson « Triste Pássaros ». Depuis le début de cette chronique, je vous parle de la condition féminine au Portugal. Et on a bien compris que les 48 ans de dictature ont laissé beaucoup de stigmates dans la façon dont était traitée la femme portugaise dans son pays. Alors j'ai poussé ma curiosité un peu plus loin et j'ai cherché à savoir quel était l'idéal féminin tant prôné par l'État nouveau de Salazar. Eh bien, figurez-vous qu'avant la révolution des œillets, la femme était traitée comme un être inférieur à l'homme. Ses droits étaient tellement limités qu'il lui était impossible de quitter le pays sans l'autorisation de son mari. On la dénommait d'ailleurs clairement comme étant le sexe faible. Elle devait se laisser dominer par les hommes et se laisser même violer. On élevait les petites filles toujours en arrière-plan des garçons. Cet héritage transmis bien évidemment de mère en fille était un héritage de discipline et de castration pour la femme. Car l'homme régnait en roi. Et oui, pendant ces 48 ans de dictature, le sort des femmes n'était fait que de discrimination et de violence. Durant quasiment un siècle, la femme n'a existé que pour être une mère parfaite, une femme dévouée et une fée du logis. La petite fille était éduquée pour être soumise au pouvoir patriarcal du père tout d'abord, du frère et plus tard du mari. Son seul avenir était d'avoir la chance de faire un bon mariage qui lui garantirait de pouvoir manger grâce à sa famille. Et Salazar, en grand dictateur qu'il était d'ailleurs, n'a jamais laissé la moindre possibilité à cet ordre social d'être remis en cause. La moindre tentative de révolte féministe était systématiquement réduite au silence. Mais à force et chemin faisant, les mentalités ont commencé à évoluer, l'industrialisation a commencé à emmener la femme loin de chez elle, et même si un contrat de travail avait à l'époque moins de valeur qu'un contrat de mariage, c'était déjà pour elle une forme d'émancipation. Les femmes portugaises ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient prétendre à aucune carrière de l'État, ne pouvaient être ni juges, ni diplomates, ni militaires, ni policiers. Pour travailler dans le commerce, quitter le pays, ouvrir un compte en banque ou prendre des contraceptifs, elles étaient obligées de demander la permission à leur mari. Et pour celles qui avaient la chance de pouvoir travailler, il faut quand même savoir que leur salaire équivalait à un demi-salaire masculin. Le peu qu'elles gagnaient, en plus, était d'ailleurs immédiatement reversé à leur père ou à leur mari. Cette loi liberticide pour les femmes a évidemment changé un an après la révolution des œillets et en 1975, le droit des femmes a enfin été inscrit dans la constitution de la République portugaise.
Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim, como do deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Surpreenda se uma outra mulher nascer de mim, como do deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor.
Nous venons d'écouter Eugenia Melicastro dans son titre « Medo de Amar ». La condition de la femme portugaise n'a pas toujours été très facile. Mais de nombreuses femmes portugaises ont toutefois toujours lutté et, de par leur comportement, contribué à atteindre une certaine liberté dont jouit l'actuelle génération. Les unes étaient écrivaines, sportives, artistes, activistes, résistantes. Elles s'appelaient Beatriz Ângelo, Catarina Eufémia, Paula Rego ou Rosa Mota. En voici quelques-unes que j'aimerais vous présenter. Catarina Eufémia a été faucheuse, mais également activiste, politique et symbole de la résistance antifasciste. Et son nom restera pour l'éternité gravé dans le cœur des Portugais, et notamment des Portugaises, comme celui d'un symbole tragique de lutte contre le régime de Salazar. Catarina avait été choisie par ses congénères comme la représentante d'un groupe de faucheuses qui voulaient représenter des revendications à leur patron. Elle représentait évidemment les femmes, mais également les hommes qui travaillaient à ses côtés. Pendant la dictature, manifester était interdit par l'État et son attitude relevait alors d'une véritable prouesse et d'un courage exemplaire. Lorsque Catalina, s'exprimant au nom de tous ses camarades, a osé demander à son chef, le lieutenant Carajol, à peine un peu plus de travail et de pain, celui-ci l'a frappé tellement fort qu'il l'a projeté à terre. En réponse de cet acte violent, Catalina a évidemment contesté l'attitude du lieutenant, mais la réponse lui a été fatale, car le lieutenant l'a sauvagement assassinée là, en plein milieu d'un champ de blé et au regard de tous. La deuxième femme que je voudrais vous présenter, c'est Vieira da Silva, une artiste peintre et apatride. En plein état nouveau, elle a voulu témoigner de la dictature en dessinant et en peignant ce que ses yeux voyaient, mais trop muselée par la censure, elle s'est expatriée à Paris où elle a étudié l'art de la peinture. C'est là-bas qu'elle a connu son mari, le peintre Arpad Szesne, avec qui elle a voyagé et vécu partout dans le monde. Vieira da Silva était l'une des peintres les plus importantes et influentes du XXe siècle, à tel point que l'Union astronomique internationale lui a rendu hommage en donnant son nom à un des cratères de la planète Mars. L'autre femme que je voudrais vous présenter est Brit de Almeida, encore appelée la boulangère d'Aljubarrota. Étant boulangère et aventurière sans limite, en grande émancipatrice qu'elle était, elle avait décidé de dépenser l'héritage reçu de ses parents, de modestes aubergistes, avec, pour s'acheter une épée qu'elle a, par la suite, appris à maîtriser avec maîtrise. Et c'est avec cette épée qu'elle a osé se confronter à des hommes lors de foires dans tout le pays. Elle était tellement habile à manier le fer pendant ses combats qu'elle laissait pantois tous ses spectateurs. Lors d'un de ses combats, un soldat a passé à marcher avec elle en lui disant « Blitz, ou tu me tues ou tu m'épouses ». Elle a évidemment accepté le défi et a tué le soldat. Mais malgré sa victoire, il lui a fallu fuir rapidement car tuer un des soldats du roi était un crime de lèse-majesté. Mais Blitz est passé à la postérité parce que durant la bataille d'Aljubarrote contre les attaques castillanes, elle aurait tué de sa pelle à pain sept Castillans cachés dans son four. Luisa Todi était actrice, chanteuse, lyrique internationale et une mezzo-soprano extraordinaire. Lors du tremblement de terre à Lisbonne en 1755, Louise, âgée de deux ans à peine, a eu la chance de survivre grâce à un four où elle s'est réfugiée pendant les interminables minutes de l'incident. Toute jeune encore, elle commence à chanter comme mezzo-soprano. Elle effectue alors une tournée en Europe et au Portugal, pendant laquelle elle a l'occasion de chanter pour la cour de la reine Dona Amélia Primeira. Sauf qu'à cette époque, il était interdit aux femmes de chanter en public. Mais pour Louise, il y avait exception, car sa voix était angélique. Virginie Carême était mulâtre, journaliste, féministe, lesbienne et symbole des minorités. Elle regardait en elle tous les stéréotypes mal vus au XIXe siècle. Elle a aussi été l'une des premières femmes à obtenir un diplôme en littérature, grâce auquel elle est devenue journaliste politique. Ana Salazar est une styliste, directrice de création et avant-gardiste. Petite fille, elle a commencé à créer avec des robes de poupées en papier. Dans les années 1980, elle crée sa propre marque Ana Salazar. Et grâce à elle, le Portugal, pour la première fois de son histoire, devient un véritable créateur et diffuseur de mode. Ana Salazar a changé le monde, la mode, en osant créer plus qu'un simple vêtement. Elle a donné naissance à une nouvelle identité féminine, un peu androgyne. Ses lignes simples, cette composante avant-gardiste qui l'a propulsée, Anne, dans les sphères internationales. Catherine Beatriz Angelo était médecin et féministe. Elle a été une battante infatigable en termes de lutte pour le droit des femmes. En 1911, elle crée et dirige l'association de propagande féministe. Elle a été la première femme portugaise à avoir exercé son droit de vote alors que c'était interdit au Portugal. Elle a été jugée pour cet affront civique et devant la cour du tribunal, elle a déclaré que n'ayant plus de mari et élevant seule ses enfants, elle pensait avoir requis toutes les conditions pour pouvoir voter. Personne n'a osé lui donner tort, mais après le procès, l'État portugais s'est empressé de changer la loi en précisant que le vote était exclusif aux hommes. Et voilà, ainsi s'achève cette chronique autour des femmes. Si j'ai voulu leur rendre un hommage, c'est parce qu'au plus profond de moi, je me sens féministe. Mais pas féministe dans le sens où je rejette les hommes, non. Je suis féministe parce que je revendique l'égalité de droits et d'opportunités entre les hommes et les femmes. À leur naissance, les filles ne devraient pas être pénalisées simplement parce qu'elles sont nées femmes. Il est injuste d'ailleurs que ce soit la biologie qui décide pour nous. Et je rappelle que le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Rien n'est possible sans les hommes. D'ailleurs, dans les luttes pas si lointaines, les hommes et les femmes n'ont-ils pas lutté ensemble pour combattre l'esclavage ou la peine de mort ? Alors pourquoi ne pourrions-nous pas lutter ensemble pour défendre le féminisme et avec lui le droit des femmes ? Alors pour terminer cette chronique, j'ai envie de vous laisser sur une phrase de Simone de Beauvoir, tirée de son livre « Le deuxième sexe », où elle a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ».
Ficaste com o meu coração e como nunca. coração fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo. Olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova. E o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Dizemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Eh oui, Rencontre Lusophone, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient samedi prochain pour une nouvelle émission. Merci Jeff, merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Bon week-end à vous tous, je vous embrasse.
Rencontre Lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais quel pied j'ai pris à baigner dans cet univers exclusivement féminin. Merci Hélène. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et de nous être fidèles tous les samedis un peu plus. Car c'est bien seulement pour vous que l'on passe tous nos samedis soirs dans ce studio. Allez, rendez-vous ici même samedi prochain à partir de 18h. Et n'oubliez pas la rediffusion du dimanche à 15h. Si vous avez aimé l'émission de ce soir ou si vous souhaitez l'écouter et la réécouter et la réécouter, grand bien vous fasse, car vous pourrez toujours vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission, Rencontre Lusophone, au pluriel, pour l'écouter en podcast. Pour l'instant, restez branchés sur les ondes de Radio Résonance. À tes brèves!